Un budget équilibré grâce à l'aide de l'État. Christopher Giget se félicite de son adoption à l'unanimité hier au Congrès. Il était ce matin notre invité. Gouvernement, Congrès, puis Haut-Commissariat. 150 manifestants protestent contre le déplacement des activités d'Ercal vers Tontouta. Dans les îles, les aérodromes sont bloqués aujourd'hui et demain. La première mission de professionnels de santé de l'Ordre de Malte-France prête à démarrer ses missions. Ses membres étaient reçus ce matin au gouvernement. En métropole, 7 personnes mises en examen et placées en détention provisoire dans l'enquête sur la mort de Quentin. Parmi elles figure Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud. Et puis en sport, la France continue sa moisson de médailles aux JO, de l'argent et du bronze en ski alpinisme, nouvelle discipline olympique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Il se poursuivra évidemment comme tout le vendredi par le magazine Transparence. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Le magazine dans lequel vous recevez cette semaine Jean-Pierre Djaoué.
Jean-Pierre Djaoué, chef du groupe uni au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il est également signataire de l'accord de Bougival et de l'accord complémentaire Élysée-Oudinot. Et dans ce magazine Transparence, nous l'interrogerons sur ces accords, bien sûr, sur leur mise en œuvre et sur le processus parlementaire. Avec lui, nous évoquerons également, actualité oblige, la préparation des élections municipales. On se retrouve juste après votre journal en compagnie de Jean-Pierre Djaoué.
Et à 16h45, on vous retrouve avec vos consultants pour le club politique Radio Rythme Bleu.
Au sommaire, sans surprise, le processus parlementaire des accords de Bougival, avec notamment la tribune des socialistes et les réactions qu'elle a suscitées, l'audition de Naïma Moutchou par la commission des lois du Sénat et son échange avec le sénateur socialiste Patrick Kanner. Nous reviendrons également sur la conférence de presse d'Emmanuel Tchibaou et la tournée du FLNKS à Paris. Nous parlerons aussi du déménagement d'Ercal à Tontouta et enfin de la préparation des élections municipales. Rendez-vous à 16h45 pour le club politique de Radio Rythme Bleu.
L'actualité politique toujours, et le pire scénario pour la Nouvelle-Calédonie, c'est de ne rien faire, affirme Naïma Moutchou. La ministre des Outre-mer était l'invitée de l'Association des journalistes parlementaires et elle a bien sûr été interrogée sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et sur le processus parlementaire en cours. Elle reconnaît que la situation n'est pas simple, mais elle affirme que cela a toujours été le cas avec les accords qui ont construit l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.
Ce sont des accords fragiles qui ont permis au territoire d'avancer. Matignon-Oudinot, Nouméa ont été des accords très contestés, qui n'emportaient pas l'unanimité des partenaires. Et il y a eu dans le temps des séquences d'aller-retour, des phases de doute, des phases de tension. Nous y sommes. De la même manière que ça a pu exister avant, nous y sommes. Mais notre responsabilité commune, collective, c'est d'avancer. Le pire scénario pour la Nouvelle-Calédonie, c'est de ne rien faire. Parce que la situation, nous le savons bien, elle est particulièrement dégradée. Sur le plan économique, le territoire a perdu 13 points de PIB. 13 points. Il est entré dans une phase de récession. On ne peut pas ne rien proposer au territoire. C'est le sens de l'accord de Bougival, complété par l'accord Élysée-Oudinot, qui donne de la perspective politique et institutionnelle. C'est le sens du protocole financier qui est adjoint, qui est un protocole qui donne un effort de l'État, plus d'un milliard d'euros, 1,1 milliard, rien que pour l'année 2026. C'est colossal.
Une aide colossale, déclare Naïma Moutchou, et elle assure que le soutien économique promis au territoire est décorrélé de l'adoption ou non du projet de loi constitutionnelle. Le protocole financier, a-t-elle affirmé, a vocation à se concrétiser indépendamment du reste du processus politique. La ministre des Outre-mer interrogeait également sur la récente tribune de parlementaires socialistes.
Les socialistes, dans leur tribune, ont dit une chose très juste. Ils ont dit, Bougival, c'est utile. Bougival, ça ouvre un chemin. Mais Bougival, il faut le sécuriser. Je suis d'accord. Et il y a encore matière à sécuriser puisque nous sommes dans un processus qui s'égrène dans le temps, qui va jusqu'à la fin de l'année. Il y a la place pour faire des choses. Il y aura l'étape au Sénat. Je l'ai dit, moi, je serai attentive aux amendements de précision qui viendront sécuriser des dispositifs, qui viendront répondre à des doutes s'il y en a, dans l'esprit des accords.
Et Naïma Moutchou a enfin répété que sa porte est ouverte et que personne n'est exclu du processus.
Moi, je n'exclus personne. Certains se sont auto-exclus de la séquence. Moi, je n'exclus personne. J'ai dit qu'il n'y avait pas de sujet tabou. J'ai dit qu'on pouvait parler. Autodétermination, identité kanak, pacte de refondation économique et sociale. Tout. T'es là. Qu'est-ce qui bloque? Je le demande, je pose la question. L'État est prêt à avancer. Moi, je suis garante d'une méthode et d'un cadre. J'ai 5 forces politiques sur 6 qui veulent construire. Il en manque une. Je l'appelle à la responsabilité pour les Calédoniens.
La ministre a par ailleurs indiqué que le projet de loi de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer sera examiné vers juin-juillet, mais qu'il doit encore être musclé. La Nouvelle-Calédonie s'est dotée d'un budget 2026. Il a été voté à l'unanimité hier par les élus du Congrès. Et seul le groupe UC-FLNKS et nationaliste s'est abstenu, Nicolas Legrand.
Oui, ce budget de la collectivité s'élève à 155 milliards de francs. Concernant le budget de répartition, il est lui à 113,5 milliards pour l'année 2026. Quant au budget de reversement, il s'élève à près de 70 milliards de francs. Il est présenté par le gouvernement comme un budget de responsabilité et de relance. Hier, les débats ont été nombreux au Congrès, mais serein. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge du budget, est donc satisfait de cette adoption et il estime que la méthode mise en place pour élaborer ce budget a porté ses fruits.
Un budget qui est voté à l'unanimité dans le contexte actuel. On est en pleine période d'élections municipales. On est à quelques mois certainement d'élections provinciales dans un contexte institutionnel qui est quand même un peu incertain. Donc avoir un budget qui est voté à l'unanimité avec des débats qui se passent sereinement, ça montre surtout que la Calédonie, elle est en capacité d'avancer ensemble, que la Calédonie, elle fait pas du surplace. Je crois qu'on a mis en place une méthode de travail qui a été d'ailleurs saluée par les élus du Congrès, d'être en capacité justement d'entamer les discussions budgétaires assez tôt et de discuter avec les élus, les institutions, les partenaires sociaux, de quelle était l'assiette de répartition, quels étaient les grands objectifs de ce budget. Ces échanges préalables avec l'ensemble des groupes politiques, l'ensemble des institutions étaient nécessaires. Le débat d'orientation budgétaire avait été adopté à l'unanimité. Là, le budget est adopté à l'unanimité. Ça a porté ses fruits. Ce budget, il est équilibré grâce à la dotation de l'État.
Un budget à l'équilibre établi donc grâce aux fonds supplémentaires accordés par l'État, tant sur le budget de répartition que sur les comptes sociaux. L'accord Élysée-Oudinot a également été un point clé concernant le contrat de désendettement qui ouvre la voie à une transformation progressive des prêts en subventions. Il s'agit là du résultat de discussions musclées avec Bercy.
On a aujourd'hui un État qui nous soutient réellement. C'est l'aide complémentaire que nous avons réussi à obtenir à la fois en Nouvelle-Calédonie et à Paris avec l'accord Oudinot-Élysée pour obtenir ces 60 millions d'euros supplémentaires et la transformation des prêts en subvention avec les années blanches. C'était inconcevable qu'on rembourse jusqu'à 8,4 milliards de prêts alors qu'on avait un déficit important de nos régimes sociaux. Je crois que l'État nous a entendus sur le fait que notre objectif aujourd'hui, c'était la relance économique, la préservation des Calédoniens. On a obtenu tout ça pour plusieurs raisons. C'est que, un, on a travaillé ensemble, à la fois en Nouvelle-Calédonie, mais également les délégations qui ont été à Paris. Et je crois qu'aujourd'hui, ce budget, il nous donne des perspectives, à la fois sur le sauvetage des comptes sociaux, puisqu'on devait avoir une cessation de paiement du secteur des retraites, du secteur privé en mai-juin. Aujourd'hui, les retraites sont assurées pour l'année 2026-2027, ce qui ne nous empêche pas de faire des réformes pour le pérenniser. On a aussi des sommes sur l'URUA, mais on a des grands objectifs sur la relance économique.
Le budget est le premier acte donc de la refondation économique et Christopher Gigès estime que le soutien de l'État pourra permettre de mettre la Nouvelle-Calédonie sur les rails.
C'est l'objectif. On travaille beaucoup avec la mission de Madame Durieux sur différents dispositifs, notamment sur l'accompagnement des entreprises avec des choses qui ont été proposées par le Premier ministre. Il y a une enveloppe également d'investissement public qui a été libérée et qu'il faut décaisser rapidement pour redonner du travail à la population. Et on est en train de construire cette trajectoire qui se veut à la fois soutenir notre économie, soutenir l'emploi, soutenir le pouvoir d'achat des Calédoniens et continuer à baisser nos dépenses publiques et à mieux gérer nos comptes sociaux. Donc là, c'est l'acte 1, c'est le vote du budget. Il va y avoir plein d'autres actes au cours de l'année pour remettre la Nouvelle-Calédonie sur les rails. Mais je le redis, quand on est en capacité de travailler ensemble intelligemment, on montre qu'on peut réussir.
Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment du budget, qui était notre invité du matin, il a déclaré qu'il y aurait encore beaucoup de réformes cette année.
La manifestation des usagers d'Air Calédonie, malgré la pluie, les manifestants opposés au déménagement de la compagnie aérienne de Magenta vers Tantouta se sont réunis ce matin à la Vallée du Tir pour une marche de contestation, Léana Colombo.
Oui, un peu plus de 200 participants se sont déplacés pour cette manifestation qui a débuté à 7h ce matin. Les manifestants se sont tout d'abord rendus au gouvernement où ils ont été reçus peu avant 10h par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Alcide Ponga. Une délégation a ensuite rencontré le bureau du Congrès. Pierre Hucajo, premier vice-président du comité de coordination coutumière de Djéhou.
Nous, on reste sur notre position, nos trois grands chefs et les îles, on reste sur nos positions, c'est-à-dire que la population et les grands chefs ne veulent pas se déplacer. Ils veulent qu'on reste à Magenta, on ne veut pas aller à Tantouta. C'est tout ce qu'on avait à déposer et on a déposé un cahier de revendications. Tout est dedans, tout est expliqué et ils connaissent et ils savent. Et bon, c'est vrai que la décision, c'est politique, mais nous, on représente quand même les grands chefs et les usagers. Mais maintenant, c'est aux politiques, maintenant, nous, on est là, et on continuera, on se battra jusqu'au bout, quoi. Si jamais le déplacement se fait toujours, nous, on avait dit, le 2, on bloquera. Il n'y aura pas de vol, c'est prévu. Et voilà, on continuera à combattre par rapport à ce que nous, on demande.
Les manifestants sont actuellement devant le Haut Commissariat où une rencontre est prévue avec le cabinet du Haut Commissaire. Puis ils se rendront au siège social d'Air Calédonie à l'entrée de la Vallée du Tir. Une réunion devrait alors avoir lieu avec son directeur Daniel Umbui. En parallèle de cette marche à Nouméa, les coutumiers des îles ont annoncé bloquer les aérodromes de Marais, Lifou, Ouvéa et l'île des Pins aujourd'hui et demain, puis le 2 mars, jour du transfert d'Air Cal vers Tantouta.
Et dans un communiqué, le président du Sénat coutumier, Ludovic Boula, Ursula lance une alerte solennelle sur une fracture territoriale sans précédent, écrit-il, et il appelle à la médiation pour éviter le blocage. Le souvenir des événements de 2011 reste vif, écrit Ludovic Boula. Sans une médiation immédiate et sincère du gouvernement et du Haut-Commissariat, le risque de troubles à l'ordre public est réel. Le comité de coordination coutumière de Djéhou, rappelle-t-il, a d'ores et déjà annoncé une mobilisation et une opération Il Mort Alifou aujourd'hui et demain.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Comprenez-vous que les usagers d'Aircal manifestent, des îles manifestent leur mécontentement sur le déménagement des activités de la compagnie vers Tontouta? Si vous le comprenez, vous tapez 1. Si vous ne le comprenez pas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 62% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS considèrent que l'avant-projet de loi du pays qui vise à permettre l'exportation de minerais à basse teneur extrait des sites de Thiébagui, de Cognan et du sud de la Territique est une remise en cause de la doctrine nickel. Ils sont 38% à penser que ce n'est pas le cas. Revenons sur le transport dans les îles pour signaler que les prochaines rotations du Betticcio sont modifiées en raison d'un incident survenu sur l'un des moteurs du navire. Incident qui nécessite des interventions techniques importantes, note la Sud-Île, qui doit donc adapter certaines traversées en raison d'un temps de navigation rallongé. Ainsi, la rotation de demain partira de Nouméa à 7h et arrivera à 10h30 à l'île des Pins. L'heure de départ du retour dimanche est avancée à 17h pour une arrivée à Nouméa à 20h30. Lundi, le Betticcio fera une rotation directe aller-retour à Marée. Enfin, la rotation vers Lifou et Ouvéa se fera en 2 jours. Mardi, l'aller Nouméa-Lifou-Ouvéa et mercredi, le retour Ouvéa-Lifou-Nouméa avec une escale d'1h30 à Lifou pour Soutage. Un week-end qui s'annonce pas très très beau côté météo. Du vent, de la pluie, des orages, c'est le programme pour les prochaines heures dans le sud de la Grande Terre et sur les îles Loyauté. Météo France NC maintient effectivement ses vigilances jaunes, vent violent et forte pluie orage pour l'après-midi et la nuit prochaine. On notera tout de même une très légère amélioration demain avant que le temps ne se dégrade de nouveau dimanche. Ludovic Lesca est prévisionniste chez Météo France NC.
On conserve un temps encore maussade la nuit prochaine, notamment sur le sud de la Grande Terre. Les nouvelles sont pas bonnes pour le week-end, avec une petite amélioration demain, mais après une nouvelle dégradation qui devrait arriver par le nord dimanche. Et puis, surtout là, en début de soirée, on va avoir, en fin d'après-midi, on devrait avoir le vent qui se renforce sur le sud de la Grande Terre et au Loyauté pour atteindre 25 à 30 nœuds avec des rafales à 40 nœuds, quoi. Demain, c'est un peu moins actif, mais on conserve un temps maussade avec moins de fortes pluies, quoi. Mais des averses qui vont continuer de circuler, notamment sur l'extrême sud et au Loyauté. Et puis une dégradation du temps pour dimanche en cours de journée par le nord.
Rappelons que les bulletins sont disponibles sur le site de Météo France Nouvelle-Calédonie. Il est 11h et bientôt 44 minutes. Une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pharamédée, si loin, mais si près, décompressez avec le Maridé. Réservez votre place sur amedeeisland.com.
Faites du sport avec la ville de Nouméa.
Rendez-vous ce samedi 21 février de 9h à 15h au stade Pentecôte et à la salle omnisport de Lansvata pour découvrir les pratiques sportives proposées à Nouméa.
Arts martiaux, sports collectifs, individuels ou aquatiques.
Profitez de la présence des associations, ligues et comités sportifs pour vous informer, vous initier et pourquoi pas vous inscrire.
Et surtout, n'oubliez pas votre tenue de sport.
Programme complet sur nouméa.nc et sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La première mission de professionnels de santé de l'Ordre Malte-France était reçue ce matin au gouvernement. Et c'est le membre en charge du secteur, Claude Gambet, qui a pris le temps d'expliquer aux 5 soignants leur mission, Léo Fichou.
Renforcer la continuité des soins au plus près des populations, en particulier dans les zones isolées et confrontées à des tensions de ressources humaines. Voilà leur mission pour les 3 prochains mois. Claude Gambet a également parlé de la coutume et des traditions locales. Il a enfin détaillé les spécificités et les besoins de la Nouvelle-Calédonie. Des besoins bien différents selon les provinces.
La pénurie est partiellement résorbée. On a quelques difficultés encore dans les îles et dans le nord. Alors dans les îles, on n'arrive pas à stabiliser l'effectif médical, donc surtout les médecins et les chirurgiens dentistes. En revanche, dans le nord, c'est surtout le secteur paramédical, les infirmières qui manquent. C'est pour ça qu'on a priorisé ces 2 collectivités, voilà, avec des besoins différenciés. Et ce sont des équipes tournantes qui viennent bientôt les 3 mois. Voilà. Donc, puisque la convention elle est encadrée pour une année d'exercice, de mission en Nouvelle-Calédonie.
Et dès lundi, les 5 soignants, un médecin, une chirurgien-dentiste, 2 infirmières et 1 infirmier seront en poste à Maré avant de se rendre à Ouvéa, en province nord, à Thio, Bouraille et La Foix. Un retour en Nouvelle-Calédonie 40 ans plus tard pour le médecin généraliste Patrick Biazon.
J'avais été volontaire à l'aide technique de 83 à 85. Je m'intéresse toujours au territoire malgré les 40 ans qui sont passés et que j'y ai toujours des amis d'ailleurs. J'avais suivi le fait qu'effectivement il y avait de moins en moins de soignants sur le territoire. Et donc, étant récemment retraité, je cherchais à savoir s'il y avait des besoins, puisque je me sens encore compétent, on va dire, même si je n'ai plus besoin de travailler. Et donc du coup, quand cette opportunité s'est présentée, je me suis dit que j'allais y aller.
Une opération financée par l'État à travers une subvention à la Nouvelle-Calédonie, subvention d'un montant d'environ 160 millions de francs, a précisé le haut-commissaire Jacques Billon.
Nous avons mis en place cette organisation et le ministre d'État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls, lors de sa venue fin août, a pu signer le 22 août, très exactement, la convention qui lie l'Ordre de Malte, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à l'État, et c'est un montant de 163 millions de francs qui a été versé au gouvernement pour permettre le déploiement de ces équipes successives de l'Ordre de Malte pendant une année. C'était absolument nécessaire. Il s'agissait collectivement de répondre aux besoins urgents des Calédoniens, et je suis content que la première équipe puisse se déployer dès lundi prochain.
Un comité de suivi se réunira chaque trimestre afin de dresser un bilan d'étape, des actions menées et de réajuster si nécessaire le dispositif.
Et toujours dans l'actualité en Nouvelle-Calédonie, le Théâtre de l'Île fait sa rentrée. Depuis ce matin, la billetterie en ligne est ouverte. L'occasion pour le théâtre de présenter la programmation de cette année 2026, mais aussi les actions culturelles menées en parallèle, Charlotte Coulson.
Le spectacle vivant revient à Nouville avec une saison bien remplie en 2026. L'année dernière, déjà plus de 12 000 spectateurs ont occupé les sièges du Théâtre de Lille. Une fréquentation satisfaisante compte tenu du contexte. Et cette année, 19 représentations sont prévues avec une programmation plutôt positive, comme l'a évoqué le directeur de l'établissement, Dominique Clément-Larosière.
On a vraiment eu envie de faire une proposition très positive pour donner envie aux gens de venir voir des spectacles, 19 pour le coup, assez éclectiques les uns des autres, puisqu'on aura évidemment du théâtre qui vient de métropole, du théâtre local. On aura aussi de la danse, il y a quelques spectacles de danse, il va y avoir du cirque. Il va y avoir peut-être de la musique sur la fin de l'année, donc c'est vraiment extrêmement éclectique Alors, j'aime pas employer le mot joyeux parce qu'on ne sait pas trop comment le prendre, mais véritablement positif.
Et parmi les représentations prévues cette année, une quinzaine sont destinées aux scolaires. Des actions culturelles sont aussi menées en parallèle des spectacles. Cette année, l'établissement accompagnera une quinzaine de jeunes issus du foyer de la ville de Dimbéa dans un projet intitulé Petit Prince en basket. Myriam Rémigy est responsable de l'action culturelle et nous en dit plus.
On a mis en place un parcours pour toute l'année. On va les accueillir sur les spectacles qu'on diffuse et ils sont invités à participer à l'ensemble de la saison. On va également leur proposer des ateliers et des rencontres privilégiées avec les artistes. Et ça, c'est en lien avec le travail qu'ils vont mener ici, puisqu'ils sont eux-mêmes amenés à devenir acteurs. Ils vont travailler avec la metteuse en scène Charline Langlais sur un projet de spectacle qui s'intitule « Petit prince en basket ». Alors les jeunes issus de foyers, c'est des jeunes qui ont été retirés de leur famille, qui ont souvent eu des parcours de vie difficiles et qui ont aussi besoin de retrouver parfois confiance en eux. Et on les a vus là déjà travailler, puisqu'ils ont déjà passé 15 jours chez nous en résidence à la fin des vacances scolaires. Et ils sont touchants, ils sont extrêmement investis. Ils ont vraiment beaucoup travaillé déjà et ça laisse présager un très beau spectacle, un très beau travail.
Et la billetterie en ligne est déjà lancée. Le premier spectacle est un seul en scène de Stéphane Dora. Toutes les choses géniales, c'est son nom. Il est prévu pour les 28 février et 1er mars. Sachez que cette année encore, le Théâtre de Lille maintient sa réduction de 25% sur les tarifs d'entrée. Pour un ticket normal, le prix est de 3000 francs au lieu de 4000 francs. Le billet jeune est à 1600 francs. Oui, les places sont à acheter sur le site ticket.nc.
Mazda vous offre les pages souvenirs de rentrée. Chez Mazda, en ce début d'année, retrouvez toute notre gamme. Citadine, SUV, utilitaire, sportive, à chaque besoin, nous avons ce qu'il vous faut. Passez nous voir et trouvez le véhicule dont vous avez besoin pour vous, votre activité professionnelle ou vos loisirs.
Notre rubrique souvenir de rentrée depuis lundi et pour accompagner la rentrée scolaire 2026 et ce midi, c'est au tour du secrétaire général de l'USSOING, Jean-Marc Burette, de nous révéler l'un des souvenirs de rentrée.
Et la rentrée, c'était tout de suite un stress parce que tout le monde se mettait en ordre de marche et il fallait faire la rentrée. Et je me souviens d'une période où il fallait gagner un peu d'argent. Hein, et dès 16 ans, je m'étais inscrit en tant qu'animateur pour les colonies de vacances pour la ville de Nouméa. Et à la fin des colonies de vacances, je suis sorti avec un petit peu d'argent. Et là, c'était l'occasion pour moi d'être autonome sur un achat spécifique. Et cet achat-là, c'était le cartable. Et le fameux cartable. Parce que n'ayant pas les moyens auparavant, puisqu'on était issu d'une famille assez nombreuse, le cartable, ce qu'on appelait le cartable laser. Voilà, avec les petites bandes de couleurs, ce qui allait bien. Et c'était une façon aussi, peut-être, d'intégrer le lycée pour ressembler un peu, rentrer un peu dans le groupe, quoi. Voilà, parce que tout le monde, c'était le Graal, quoi, d'avoir le cartable laser. Enfin, le Graal, j'exagère un peu, mais tout le monde voulait ce cartable. Et donc, effectivement, ce qui pourrait caractériser la rentrée scolaire, c'est le cartable. Voilà, le cartable. Quelle tenue on va mettre pour le premier jour, c'est important aussi. On a l'impression qu'on va à la messe le dimanche, quand même, hein. Donc il faut être bien apprêté, il faut avoir le beau cartable et tout ce qui va bien avec, quoi. C'était en seconde, ce qu'on appelait à l'époque la seconde TSA productique. Jules Garnier. Un message de rentrée scolaire. Malgré les temps difficiles, je sais que ça ne va pas être facile pour toutes les familles. C'est là qu'on trace notre avenir et c'est là que tout se joue. C'est sur les bancs de l'école. L'éducation est fondamentale pour l'avenir de ce pays. Nos jeunes doivent s'accrocher et sortir diplômés.
Voilà le cartable, l'objet symbole de la rentrée scolaire de secrétaire général de l'USSOING, que Jean-Marc Burette. Une série évidemment souvenir de rentrée qui se poursuit encore sur Radio Rythme Bleu jusqu'à ce week-end.
C'était les pages souvenir de rentrée offertes par Mazda. Passez nous voir à notre showroom situé au 174 rue Auguste Bénébigue à Magenta et repartez avec le véhicule qui vous convient. De la citadine à l'utilitaire, Mazda, c'est toute une gamme qui s'adapte à vos besoins. Mazda, drive together.
Et dans un petit instant, on se retrouve pour l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Cet été, offrez-vous un moment détente au Ramada Nouméa. Accès piscine plus déjeuner pour seulement 4000 francs adultes et 2000 francs enfants. Plongez, relaxez-vous et profitez. Réservé au 23 90 00. Ramada Nouméa, le bonheur sous le soleil.
Nous y sommes. La démocratie participative prend vie au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Une plateforme citoyenne est ouverte pour vous permettre de choisir le sujet qui sera confié à la toute première assemblée citoyenne. Exprimez votre priorité dès maintenant sur www.congrès.nc. Toute l'information est disponible sur le site et la page Facebook du Congrès.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole avec Jean-François Boudin.
Et sept suspects soupçonnés d'avoir pris part au lynchage du jeune Quentin à Lyon le week-end dernier ont été présentés au juge cette nuit pour nous. L'enquête avance et les auditions réalisées pendant les gardes à vue ont donc abouti à des mises en examen. Jean-Luc Boujon pour Europe 1.
Et parmi eux, Jacques-Élie Favreau, collaborateur du député LFI Raphaël Arnaud. Et on l'a appris il y a quelques minutes, le juge des libertés de la détention vient d'ordonner son placement en détention provisoire. Ce membre du groupuscule ultra-violent et d'extrême-gauche de la Jeune Garde va donc passer sa première nuit en prison. Ce qui lui reprochait, eh bien, c'est d'avoir donné les instructions, les ordres lors du lynchage mortel de Quentin. Il encourt 30 ans de prison, la même peine que s'il avait directement frappé à mort Quentin, et donc commis l'homicide volontaire. Ça, ce sont pour le moment, deux de ses comparses qui sont poursuivis pour ces faits. Ils ont été mis en examen, eux aussi. Quatre suspects sont toujours en train d'être présentés au juge d'instruction et eux aussi sont poursuivis pour homicide volontaire. Enfin, on le rappelle, hein, trois femmes et un homme, ceux qui avaient été placés en garde à vue pour recel de malfaiteurs, ceux qui étaient suspectés d'avoir aidé les principaux agresseurs à s'enfuir ou à se cacher, eh bien, ils ont été libérés. Ils devraient être convoqués par la justice prochainement.
Jacques-Élie Favreau et l'assistant parlementaire du député LFI du Vaucluse, Raphaël Arnaud. LFI écarte pour l'instant toute sanction contre lui. C'est aussi le fondateur de la Jeune Garde. Cette attitude de LFI vis-à-vis du groupuscule d'extrême-gauche ultra-violent est désapprouvée par une majorité de Français. Selon un sondage Odoxa pour le Figaro, ils sont 61% à se déclarer être prêts à faire barrage à LFI aux prochaines élections. Une affaire qui provoque aussi une autre polémique. Le maire écologiste de la ville, Grégory Doucet, veut interdire une marche blanche prévue samedi, destinée à rendre hommage aux jeunes militants. Il craint qu'elle attire des militants d'extrême droite de toute la France et même de l'étranger et qu'il existe un risque de violence. Ce qui fait réagir Aliette Espieux, l'organisatrice de cette marche blanche.
Monsieur Doucet se fonde sur les craintes des différents élus LFistes qui ne souhaitent absolument pas que la France continue de parler de ce jeune homme qui est mort à cause de leur milice. Donc la crainte de monsieur Doucet, pour moi, n'est pas fondée. Le préfet nous a transmis ses volontés, ses conditions pour que l'hommage ait lieu. Nous tenons compte de l'ensemble des demandes du préfet et de la famille, qu'il n'y ait aucun débordement et également aucune récupération politique. Donc en prenant en compte ces demandes-là, tout devrait se passer correctement.
Les parents du jeune Quentin appellent au calme mais à la responsabilité. Ils ne participeront pas à la marche blanche si elle a lieu et ne souhaitent aucune récupération politique. Et pour la première fois depuis samedi, le président de la République a évoqué ce drame. Emmanuel Macron est en Inde, mais il a été interrogé sur la mort de Quentin. Il s'est contenté d'un appel au calme en renvoyant les extrêmes dos à dos.
Les partis extrêmes doivent faire leur ménage, l'extrême gauche en l'occurrence, mais les autres partis extrêmes et l'extrême droite aussi, qui a dans ses rangs parfois des militants qui justifient l'action violente. Je les appelle tous à la responsabilité, à lever ces ambiguïtés, je les appelle tous à ramener les esprits à la fois à la décence et au calme.
Et le chef de l'État s'en est aussi pris à la première ministre italienne Giorgia Meloni, qui a parlé à propos de la mort de Quentin d'événements choquants et attristants, ajoutant que c'était une blessure pour l'Europe.
Toujours frappé de voir que les gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux, sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés.
Et l'entourage de Giorgia Meloni s'étonne de cette charge contre le Premier ministre italien et fait part de sa stupéfaction en assurant que Giorgia Meloni voulait simplement adresser un signe de solidarité aux Français. L'actualité en métropole, toujours marquée aussi par les crues dans plusieurs départements de l'Ouest, le Lot-et-Garonne, la Charente-Maritime, le Maine-et-Loire et la Gironde, auxquels il faut rajouter la Loire-Atlantique. 5 départements placés en alerte rouge forte crue après le passage de la tempête Pedro. Autre tempête en Grande-Bretagne, cette fois-ci, où la famille royale est rattrapée par l'affaire Epstein. Le frère du roi Charles III, l'ex-prince Andrew, a été entendu pendant 9 heures par la police sous le régime de la garde à vue avant de ressortir libre. Il est accusé de faute dans l'exercice de fonctions officielles. Impliqué depuis 2019 dans cette affaire, Andrew Mountbatten-Windsor a retrouvé son nom civil puisqu'il a été déchu de son titre de prince par son frère. En tout cas, l'annonce de sa garde à vue a été commentée dans les rues londoniennes.
J'ai vu ça à la télé ce matin, je n'y croyais pas. Oh mon Dieu, mais tant mieux. Il doit prendre ses responsabilités. S'il n'a rien fait, pas de problème. Mais sinon, on attend et on verra.
Son arrestation est une bonne chose. Je ne vois pas pourquoi il aurait un traitement préférentiel.
Il n'a que ce qu'il mérite. Il pensait pouvoir s'en sortir grâce à qui il était, grâce à son statut, mais ça s'est retourné contre lui.
Un des propos recueillis par la correspondante d'Europe 1 à Londres, Sarah Menahi. Il est 11h et bientôt 59 minutes, la dernière pause. Et dans un instant, on évoque le sport et les nouvelles médailles françaises aux JO.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Envie de voyager? Le financement, c'est Socalfi. Un mariage en vue? La sérénité, c'est encore Socalfi. Des travaux à lancer? La solution, c'est toujours Socalfi. Parce que chaque projet est important, Socalfi finance toutes vos envies. Contactez-nous dès aujourd'hui au 448 448 ou sur notre site socalfi.com. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Jean-François Baudin.
Et la page sport nous emmène d'abord en Italie, évidemment, avec 2 nouvelles médailles pour la France aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Des médailles, Léo Fichu, décrochées dans une toute nouvelle discipline.
Et oui, c'est la première fois de l'histoire que le ski alpinisme est au JO. Pour faire simple, c'est une version compétitive du ski de randonnée. Une course où les athlètes enchaînent des montées sur les skis et à pied avant de redescendre en ski le plus vite possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Cette nuit, Émilie Arop a été la première médaillée française dans cette discipline. Favorite pour l'or, elle décroche finalement l'argent.
Je suis quand même un peu déçue, ce serait mentir de dire le contraire. C'est sûr, une médaille sur nos premiers jeux, c'est incroyable. Mais c'est vrai que je la visais d'une autre couleur. Mais voilà, Marianne, elle a été vraiment solide aujourd'hui. Moi, j'ai fait des petites erreurs. J'ai eu un petit manque de lucidité pour le rechaussage qui était un peu de travers.
Dans la foulée, un autre tricolore est monté sur le podium. Thibaut Anselmet a remporté, lui, la médaille de bronze.
Je pensais pas que l'ambiance m'affecte autant. J'étais un peu moins calme que d'habitude. Pourtant, c'est ce qui me définit quand même bien. Et aujourd'hui, j'ai perdu un petit peu mon sang-froid. J'ai fait des grosses erreurs. Je manquais d'un peu de sang-froid. Mais je suis vraiment fier de ramener encore quand même une médaille.
La délégation tricolore conserve sa 4e place au classement général avec 19 médailles, 6 en or, 8 en argent, 5 en bronze. La Norvège garde la tête devant l'Italie et les États-Unis.
Et puis un mot de cyclisme pour signaler la première victoire en professionnel de Paul Sexas. Le jeune Français de 19 ans a remporté la 2e étape du Tour d'Algarve. Cette nuit, c'est évidemment au Portugal. Du football sur la scène européenne avec la mauvaise opération pour Lille lors du barrage aller en Ligue Europa. Les Dogs se sont inclinés 1-0 à domicile face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Au match retour, les Lillois sont dans l'obligation de gagner s'ils veulent se qualifier pour les 8e de finale. Le football pour terminer, mais cette fois-ci sur le territoire. Léo, on connaît en effet depuis ce matin le programme de la première journée de Super League.
Des rencontres prévues le samedi 7 et le dimanche 8 mars prochain. 4 du côté de Nouméa, 1 à Yengen. En ouverture le samedi après-midi, le tenant du titre, Tiga, ira défier Yengen Sport pendant que l'AS Magenta sera opposé à l'AS Kounié au stade Nouma Dele. Dans la foulée, Geisha jouera contre le CA Saint-Louis. Oui, enfin le dimanche, on suivra AS Mondor, Horizon Passau et AS Lossy, SC Nedjeou.